Cours d'éthique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 24 octobre 89.
Nous avait dit la dernière fois, c'est le désir du bonheur qui porte à l'amitié. Le désir du bonheur repose sur un amour. S'agit-il de l'amour de soi? Sinon, de quel amour s'agit-il? Quelle est la place de l'amour de soi dans l'éthique? Quel lien y a-t-il entre l'amour de soi et l'amour de l'ami? Oui, c'est important. C'est sûr que c'est l'amour de soi. On s'aime. C'est pour ça qu'on veut être heureux. On s'aperçoit assez vite que s'aimer, ça va pas très loin. Et que l'amour implique en lui-même comme une force qui nous demande de nous dépasser. Oui, alors, l'amour de soi est quelque chose d'assez fondamental. Vous pourriez dire que toute l'éthique repose sur l'amour de soi. Je veux bien. Mais c'est dangereux de dire ça. Parce que on ne peut pas être pour nous-mêmes notre propre bien. Là, on pose une question très curieuse. Comment se fait-il que je peux être le bien d'un autre et pas le bien pour moi? Ça, c'est stupéfiant. Comment se fait-il que je puisse être le bien d'un autre? Je peux finaliser un autre de m'aimer. Et je ne peux pas être pour moi mon propre bien. Je suis mon bien, mais je ne peux pas être le bien qui me finalise. Oui. Ça demande une longue méditation. Une demi-heure de silence. Vous le verrez progressivement. Je ne vais pas le traiter ça ici, parce que c'est très... Mais c'est bien comme question. Il faut se le poser tout le temps. L'amour de soi et l'amour à l'égard de l'autre. Aristote n'hésite pas à te dire que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Que très souvent, c'est parce qu'on ne s'aime pas qu'on n'arrive pas à aimer les autres. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Je crois qu'Aristote soulignerait ça très très fort dans le monde d'aujourd'hui. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus on voit ça. On voit des êtres qui sont mal dans leur peau, quoi. Qui ne s'aiment pas. Qui n'arrivent pas à s'aimer. Parce qu'on leur a dit dans leur jeunesse qu'ils étaient des imbéciles. Mais c'est resté. Tu es bon à rien. Qu'est-ce que tu feras plus tard? Rien, rien. Toujours dernier. Qu'est-ce que tu feras? Vous avez comme ça asséné des coups. Vous voyez? Et des coups au plan moral, c'est pire que des coups au plan physique. Plan physique, c'est embêtant, mais c'est pas grand-chose. C'est notre corps qui encaisse. Tandis que là, au point de vue moral, c'est beaucoup plus grave. D'avoir eu un père qui n'a cessé de dire ça, parce que le père polytechnicien voulait que son fils soit polytechnicien. C'est comme ça que ça doit se passer. Il y a une espèce de fierté de famille. Et cette fierté de famille fait que ça doit être comme ça. Et alors, comme il était incapable, il n'avait pas la bosse mathématique, il a attrapé ça. C'est la seule chose importante dans sa vie. C'est d'être polytechnicien. Et si on l'était pas, on ratait sa vie. Alors on ne s'aime plus. Il y a un refoulement qui fait qu'on ne s'aime plus. Ça arrive, ça, hein, beaucoup plus qu'on ne pense. Et là, si on ne s'aime pas, on a une peine énorme d'aimer les autres. D'arriver à s'assumer, quoi. Alors, ce premier amour n'est pas l'amour, c'est un amour fondamental. Vous n'aimez pas beaucoup dire « Ah, je m'aime, oui, je m'aime. » On n'y pense pas. Vous pensez combien de fois par jour vous vous aimez? C'est se regarder dans la glace que de dire « je m'aime, oh, ce que je m'aime. » Exercice noviciat. Hein, dites-vous ça 50 fois par jour, je m'aime. Chaque fois qu'on commence une petite heure, je m'aime, Seigneur. Seigneur. Non, ça ne se dit pas. Mais on s'aime fondamentalement. C'est vrai que c'est un amour naturel. C'est pas un amour de choix. C'est un amour naturel. Oui, c'est un peu analogue à l'appréhension au niveau de la pensée. À partir du jugement, je découvre qu'il y a l'appréhension. À partir de l'amour des autres, je découvre que je m'aime. Oui, c'est un amour naturel. Et ne pas s'aimer, ce n'est pas un amour naturel. Donc cet amour naturel qui est fondamental, que je ne pense pas. C'est vrai, je ne pense pas. Et il te reste dans l'éducation, le gosse qui se regarde trop, il dit, mais non, regarde les autres. Aime le petit copain, aime ton petit frère. C'est ça qui est important, c'est d'être attentif à lui. On l'a corrigé là-dessus, ce qui est tout à fait juste. Moralement parle, au point de vue moral. Alors quelquefois, ça a pu mettre une attitude justement de dire on n'a pas le droit de s'aimer. Ça existe, ça, des gens qui disent on n'a pas le droit de s'aimer. Pas du tout. On doit s'aimer, mais d'un amour naturel, fondamental, qu'on découvre à partir de l'amour des autres, et qu'on découvre comme fondement par rapport aux autres. Exactement comme l'appréhension pour le jugement. Il y a quelque chose d'analogue, vous voyez. C'est ça qui serait intéressant à creuser. Mais ce qui fait que, vous comprenez, quand vous posez la question comme ça, c'est important de voir le sophisme. Le désir du bonheur repose sur un amour. S'agit-il de l'amour de soi? Fondamentalement, oui. Sinon, de quel amour s'agit-il? Aimer l'autre. Amour de soi et amour des autres n'est pas une position dialectique. Là, on pose dialectiquement. Ou c'est l'amour de soi? Ça peut être l'amour des deux. C'est l'amour des deux. Le bonheur, c'est l'amour des deux. C'est l'amour de soi fondamentalement et l'amour de l'autre, explicitement. Vous voyez, là, vous voyez le point de vue dialectique. Quelle est la place de l'amour de soi dans l'éthique? Il est fondamental, mais ce n'est pas le fondement propre. Il est le fondement naturel. S'il n'y a pas l'amour de soi, il n'y a pas l'amour du bonheur. S'il n'y a pas l'amour du bonheur, il ne peut pas avoir l'amour de l'autre. Oui. Alors, c'est là l'analyse. Et c'est là, au point de vue philosophique, il faut bien comprendre que je ne me place pas à un point de vue psychologique. Au point de vue psychologique, l'amour de soi, il faut faire attention. Si vous êtes tourné sur vous tout le temps, et ça devient un obstacle par rapport aux autres. Alors qu'au plan philosophique, l'amour de soi est un fondement, une condition sine qua non. Il faut vous aimer pour aimer les autres, mais pas psychologiquement parlant. Vous voyez ? Et si vous confondez le point de vue philosophique et le point de vue psychologique, alors ça ne va plus. La scolastique est née le jour où on a considéré l'appréhension comme distincte, séparée du jugement. Et à ce moment-là, on est tombé dans l'ontologisme. Il y a un petit peu quelque chose d'analogue. Le jour où on considère l'amour de soi, psychologiquement parlant, comme premier, on ne peut plus aimer l'autre. Parce que vous vous aimez toujours en projetant sur les autres vos désirs. Je m'aime. Et donc, j'aime les autres dans la mesure où je m'aime. Ah, pas du tout. Heureusement, pour l'autre. Parce que si vous aimez l'autre dans la mesure où vous aimez, pauvre amour. Et c'est la confusion de l'analyse philosophique du fondement de l'amour et de l'amour psychologique, c'est-à-dire la conscience que vous avez de vous aimer. Ce que je vous ai dit ce matin, regardez dans la glace. Psychologiquement parlant, Et vous voyez bien ça, ça c'est très important. Parce que c'est ça qui gêne. Et c'est pour ça que c'est très bien de poser la question comme celle-là, parce qu'on voit tout de suite, vous voyez, nous sommes tous, hein, tous, post-hégéliens. Et donc nous avons une peine énorme de dépasser une pensée dialectique. Nous avons une peine énorme à retrouver un ordre naturel, où le fondement ne s'oppose pas à un amour plus. Après. Et ça, à cause de la psychologie. Vous avez dit, la destruction de l'autorité paternelle, c'est la destruction de la possibilité d'amitié. Pouvez-vous expliciter? La destruction de l'autorité paternelle, c'est la destruction de la possibilité d'amitié. Vous voyez ce que ça veut dire? Je ne sais pas si j'ai dit ça exactement comme ça, c'est possible. Regardez la cassette. On va lui demander à lui de vérifier si c'est ça. Exactement. Je n'ai pas souvenance, moi. J'étais dans un état second, sans doute. Je peux essayer de comprendre ce qu'il y a d'intelligible dans cette phrase. Comme si je l'avais d'un pré-socratique. Alors... La destruction, parce que si on est dans un état second, on est pré-socratique. On vit tous les pré-socratiques dans un état second. La destruction de l'autorité paternelle. Donc, je détruis l'autorité paternelle. Il n'y a plus d'autorité paternelle, je ne peux plus m'appuyer sur quelque chose d'autre que moi. Puisque l'autorité paternelle me permet de coopérer. Donc, l'obéissance. C'est la destruction de la possibilité d'amitié. L'obéissance implique un respect. S'il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amitié. Vous voyez, on retombe sur ses pattes. C'est vrai, c'est dans l'obéissance que vous découvrez en premier lieu le respect de l'autre. Et s'il n'y a plus de respect, il ne peut plus y avoir d'amour d'amitié. Alors, ce serait intéressant de voir, vous voyez. Ces deux, c'est curieux, hein. Ça c'est la providence qui fait que ces deux choses sont parallèles. Les conditions sine qua non de l'amour d'amitié. Bon, les conditions sine qua non, c'est toujours un aspect critique. Quelles sont les conditions sine qua non de l'amour d'amitié? C'est très intéressant, les conditions sine qua non, hein, parce qu'avec Kant, les conditions sine qua non deviennent des causes. La condition sine qua non, si B n'est pas à A, on n'aura pas telle chose, telle réaction. Vous voyez? Donc c'est une analyse qui montre une relation, mais pas nécessairement une causalité. C'est ça les conditions sine qua non. On raisonne tout le temps comme ça aujourd'hui, dans la connaissance scientifique. C'est les conditions sine qua non pour que l'amour d'amitié apparaisse. C'est très stoïcien, les conditions sine qua non. Parce que c'est le lien de relation. Alors, ici je dis deux conditions sine qua non. Si les deux textes sont justes, amour de soi. Amour naturel de soi. Tout homme bien fait s'aime. Tout homme bien fait s'aime. Si on ne s'aime pas, ça prouve qu'il y a eu un obstacle, ça prouve qu'il y a eu une destruction de quelque chose de très fondamental en nous, l'amour de nous. Si vous mettez la négation en premier lieu, ça fait une destruction de l'amour de soi. C'est la grosse artillerie. Si vous mettez la négation en premier lieu, vous ne vous aimez plus. Vous portez en vous un mort-né. C'est terrible. Parce que Vous êtes détruit. Je suis un imbécile. On vous a dit ça tellement qu'au bout d'un certain temps, vous êtes identifié avec l'imbécile. Ça existe, ça, hein, c'est pas. Ça existe. Alors, à ce moment-là, on ne peut plus s'aimer. Mais voyez, le fait qu'on ne peut plus s'aimer provient d'une violation extérieure, d'une grosse artillerie extérieure, tandis que l'amour de soi est naturel. Donc je n'y pense pas. Je ne réfléchis pas là-dessus. Je m'aime, c'est évident. Je vais m'arrêter là-dessus. Je n'ai jamais mis ça en cause. Je m'aime. Ça, c'est l'ordre naturel, normal. Condition sine qua non pour qu'il ait moins d'amitié. Deuxième condition sine qua non, le point de vue de l'obéissance. Au Père. Pourquoi ? Parce que l'obéissance au Père peut donner le sens du respect. C'est en obéissant que j'acquiers le respect à l'égard de l'autorité. Donc à l'égard de l'autre. De l'autre qui est autorité. Or, s'il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amour d'amitié. S'il n'y a plus d'amour de soi, il n'y a plus d'amitié. Alors, ce qui serait intéressant, posez-vous la question, y a-t-il d'autres conditions sine qua non pour l'amour d'amitié? Ça, c'est très important pour l'éducation. Saint Jean, éducation. Vous verriez ceux qui s'occupent de Saint-Jean Éducation faire un article sur l'éducation, vous verriez tout de suite, est-ce qu'ils ont noté les conditions sine qua non pour que l'amour d'amitié puisse éclore? Y a-t-il une troisième condition? Là, sûrement, ce sont deux conditions essentielles. Y a-t-il une troisième condition? Cherchez. Il y en a deux, sûrement. L'amour de soi et l'obéissance paternelle. La suppression de l'autorité du Père et de l'obéissance empêche l'éclosion de l'amour d'amitié. Très curieux, ça. Parce qu'il n'y a plus de respect et on peut ajouter parce qu'il n'y a plus aussi de tuteur. Vous voyez, l'obéissance donne le respect à l'égard de l'autre et l'obéissance fortifie. Quand j'obéis, c'est le point de départ de mon amour. L'analogue à la foi qu'on a dans un maître qui enseigne. Il faut croire avant de savoir. Dans l'ordre de l'éducation d'intelligence, celui qui critique tout dès le point de départ, qui n'a aucune confiance en son maître, il n'entrera jamais. Le maître est un imbécile. Il a dit 1 et 1, 2. C'est un imbécile. A priori. Donc, il n'entrera jamais dans les mathématiques. C'est l'exemple que j'ai déjà donné d'un gosse qui dit ça après son premier cours de mathématiques. Qui revient en disant ça. C'est authentique, c'est la mère qui me l'a raconté. Le maître est un imbécile. Il a dit 1 et 1, 2. Alors 1 et 1, c'est pas 2, c'est 1. Hein? Comme il est intelligent, le gosse. Et comme il est bête, le maître. C'est ça? Alors, primum credere. Credere. Au point de vue humain. La foi au point de vue humain. J'ai confiance, je crois. J'adhère. Je comprends pas tout. En métaphysique, vous ne comprenez pas tout, c'est bien évident. Il faut que vous croyez. Oui, il a enseigné déjà depuis assez longtemps. ne vois rien. Là, je crois. Je crois. Crédérez. Oui, c'est pour ça que la métaphysique peut-elle s'enseigner dans un milieu purement sorbonnard, de pure sécularisation? Je crois pas. La métaphysique présuppose des traditions religieuses. Oui, comme condition sine qua non. Je crois. Parce que l'intelligence est tellement fragile. La métaphysique a été enseignée avec les traditions religieuses. La métaphysique, en Grèce, elle était enseignée dans les écoles monastiques. Et le jour où la métaphysique est sortie des écoles monastiques pour aller à l'université, tant que l'université était chrétienne, oui, le jour où l'université ne veut plus, alors est-ce qu'on peut encore? Alors c'est très exceptionnel. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. C'est un milieu, c'est une question de milieu. Des plantes suffisamment fortes peuvent résister au milieu. Mais, très souvent. Alors, c'est pour ça que la question de l'intelligence, de la volonté se fortifie en obéissant. Et quand vous obéissez, vous progressez dans l'amour de vous et de l'autre. C'est pour ça que je crois que là, il y a deux conditions. Tu vois, l'obéissance au Père, respect de l'autre et puis fortifié, qui permet ensuite d'aimer. Vous êtes déjà suffisamment fort pour être attiré par l'autre. Vous voyez, quand on est trop fragile, on a peur d'être délogé. Un risque, on se quitte, on aime l'autre, on est délogé. Alors si on est trop fragile, on lève les ponts-levis, puis on jette de la poix. Parce que tous ceux qui sont à l'extérieur sont des ennemis. Ils veulent venir me violenter, je jette de la poix. Il faut être déjà assez fort pour aimer. Pour aimer l'autre. En aimant l'autre, je regarde l'autre avant moi. Donc, il y a l'aspect extatique de l'amour. Et l'aspect extatique de l'amour présuppose qu'on se dépasse. C'est pour ça que je crois que c'est intéressant de regarder ces conditions sine qua non de l'amour d'amitié, qui n'expliquent pas ce qu'est l'amour d'amitié, mais qui montrent que l'éclosion de l'amour d'amitié ne peut exister que dans tel milieu. Comme l'éclosion de la découverte de la métaphysique ne peut s'exercer que dans tel milieu. Et quand je dirais, par exemple, les traditions religieuses sont une condition sine qua non pour l'éclosion de la métaphysique, je ne veux pas dire que la pensée métaphysique est religieuse. Non, non. Les conditions sine qua non ne spécifient pas. C'est pour ça que ce n'est pas des causes. C'est des conditions, c'est des quanon. C'est pour le milieu d'éclosion. Ce n'est pas la même chose du tout. Pour qu'apparaisse l'amitié, il faut telle conclusion. L'amour que j'ai de moi ne spécifie pas l'amour que j'ai pour le proche, pour l'autre, pour mon ami. Je t'aime autant que je m'aime. Hein, c'est un bon compliment, ça. Alors si je me déteste, je te déteste. Oui, vous établissez des lois par les conditions sine qua non. Toutes les lois sont basées sur les conditions sine qua non. Mais ce n'est pas la découverte des causes. Toute la différence entre la science et la philosophie. Oui.
Comment est-ce qu'on doit comprendre la parole de...
Comment ?
Comment est-ce qu'on doit comprendre la parole de l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même ?
Oui, mais comme toi-même, c'est différent. C'est dans un ordre de théologie. C'est pour montrer que l'amour de soi, étant fondamental, il permet l'éclosion de l'autre. Mais ce n'est pas le dernier mot. Hein. Condition sine qua non. Dernier mot, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La mesure de l'amour du prochain, ce n'est pas l'amour que vous avez pour vous. condition sine qua non dans l'ordre de l'exercice, mais pas la spécification. Oui. Parce qu'il y a l'autre affirmation qui vient corriger la première, vient compléter. Oui. Donc il faut toujours bien distinguer les conditions sine qua non de l'analyse philosophique des causes. Une fois qu'on a bien compris ça, on comprend toute la différence entre le développement de la science et le développement de la philosophie. Comme nous sommes dans un monde très scientifique, de pensée très scientifique, c'est très important. Puis alors vous voyez entre deux Kant, et vous voyez que Kant considère que les conditions sine qua non vous donnent la connaissance du nécessaire et de la science.
Quel est le rôle de l'autorité matérielle?
Conditions sine qua non, c'est la même chose que pour le père. C'est encore plus fondamental. La mère n'a d'autorité que par le père. Les deux se tiennent, si vous voulez. Dans l'analyse, je dis ça, pas au point de vue psychologique. Mais les deux se tiennent. Donc c'est la même chose. Mais la mère est plus pour former le point de vue de l'amour. Et l'amour de soi. Je crois que c'est lorsqu'il y a une rupture avec l'amour maternel qu'on ne s'aime plus. Ce qu'il faudrait chercher, comment se fait-il que cet amour naturel de soi puisse être occulté, puisse être arrêté, d'où ça vient? Eh bien, je crois, c'est parce que l'amour maternel n'a pas été ce qu'il aurait dû être. Ça, je l'ai constaté combien de fois. Quand quelqu'un vous dit « je ne m'aime pas », impossible de m'aimer. Vous essayez de comprendre d'où ça vient. Eh bien, presque toujours, c'est parce que la mère a refusé l'enfant. L'a pas aimé. L'a rejeté. D'une manière ou d'une autre, hein, ça se fait de multiples façons. Parce que c'est le mal. Bon. Alors, continuons. Je vous disais la dernière fois, et ça il faut réfléchir toute l'année. Et comme on fait de l'éthique pendant trois ans on réfléchit là-dessus. L'amour d'amitié, l'expérience de l'amour d'amitié, et ce qui permet aux philosophes d'élaborer une éthique, une philosophie morale réaliste. Toute autre éthique basée sur une autre expérience tombera très vite dans l'idéalisme. Ce serait une éthique stoïcienne sur le devoir. La grande éthique stoïcienne sur le devoir. Qu'on assume, l'amour d'amitié assume l'éthique du devoir. Mais elle la situe, on le verra. Ou une éthique de la jouissance. Les deux grandes éthiques, pas l'oublier. Éthique épicurienne, éthique stoïcienne. Et on tombe de carrément là. La plupart des personnes, vivent d'une éthique stoïcienne du devoir, kantienne, ou une éthique épicurienne du plaisir. En vous, en chacun d'entre nous, nous portons ça. Le matin, le devoir, le soir, la jouissance. Vous voyez, si on est un tout petit peu freudien, c'est comme ça. Freud divise. S'il fait une éthique, il n'en fait pas, mais il divise son anthropologie comme ça. Le devoir, le conscient. Le plaisir, l'inconscient. Vous voyez bien. Il n'a pas dépassé cette opposition entre les deux. Un homme conscient fait son devoir. Dans l'inconscient, on se rattrape. Alors, c'est le plaisir. chose de juste, hein. Faut pas dire qu'il y a quelque chose de juste. En chacun d'entre nous, il y a un homme de devoir. Ça, c'est sûr. Vous êtes ici par devoir. Tu peux vous demander, hein, pourquoi vous êtes là? Par devoir. Je paye. C'est mon devoir. Ça m'assonne, mais c'est mon devoir. Et puis alors, l'autre qui dit, je suis ici. Ah, parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait passer une heure. C'est ce plaisir. Le plaisir. Oui. Et quelquefois, les deux se battent ensemble. Deux frères jumeaux. Un Ésaü et un Jacob. Et ils sont là. Ils se battent. Il y en a un qui passe avant l'autre. À certaines heures de la lune. Et puis d'autres qui passent à l'inverse. Bon. Il faut dépasser ces deux aspects. L'éthique du plaisir, l'éthique du devoir, et découvrir l'éthique de l'amour. Et de l'amour dans ce qu'il y a de plus parfait, l'amour d'amitié. Parce qu'il y a d'éthique, il y a de morale, que lorsqu'il y a un amour explicite. Au sens très très fort. S'il n'y a pas d'amour, je ne suis pas responsable. Et s'il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus d'amour. S'il n'y a pas d'amour, je ne sais pas ce que c'est que le respect. S'il n'y a pas d'amour, je ne sais pas ce que c'est que mon devoir. S'il n'y a pas d'amour, je ne sais pas ce que c'est que la jouissance et la joie. Donc l'amour est fondamental. Et quand cet amour fondamental devient l'objet, ce que je considère en premier lieu, de ma volonté, je découvre toute mon activité morale. L'activité morale se développe à l'intérieur du développement de l'amour. Alors, ça devient quelque chose de très beau, vous voyez. L'éthique, c'est le développement de l'amour. C'est pour ça que si je pars de l'expérience de l'amour, je découvre cette structure de l'amour humain, de ma volonté. Et c'est cela qu'il faut bien saisir. Si j'analyse ce que c'est que l'amour d'amitié, je découvre tous les moments particuliers de cet amour d'amitié. L'amour d'amitié. Alors je vous donne ça très rapidement, puisque ce n'est pas l'objet du cours de cette année-ci, c'était l'année dernière. Alors c'est pour vous remettre en acte. Et pour les autres, avoir un tout petit aperçu. L'amour d'amitié présuppose un amour premier, simple. C'est dans l'analyse, parce que je n'ai pas conscience de ce premier amour, parallèlement à la simplex appréhension, à l'appréhension. Un amour simple qui porte sur un bien spirituel, c'est-à-dire une personne. Je découvre une personne comme capable d'être mon bien. Cet amour spirituel, je l'accepte ou je l'accepte pas, il devient intention de vie. C'est le passage du bien à la fin. Je considère que ce bien me finalise, rien au-dessus. Donc, 1, 2, 3. L'intention de vie me met dans une union affective. Mais une union affective qui est aussi ici. Premièrement, consiste à confondre l'union affective avec l'union effective. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entre dans le royaume de Dieu. Tandis que l'ontologisme moral qui existe, qu'on appelle l'illuminisme, puisque j'aime, c'est ça, c'est la réalité. Mais non. Ça existe de temps en temps, ça fait. Je suis à l'accueil. Si quelqu'un vient, oh, je l'aime. Je l'aime puisque je l'accueille. Mais je ne bouge pas, je l'aime. Je ne vais pas devant lui. L'union effective, je l'aime, c'est suffisant. Ah, je l'ai accueilli. J'ai prié pour lui. Je l'ai accueilli. Je pourrais prendre des quantités d'exemples où l'union affective est considérée comme l'union effective. Passage de l'intentionnalité à la réalité. Identification des deux. Et on ne voit plus la distinction des deux. Oui. Donc c'est ça l'ontologisme. Il y a un ontologisme affectif et moral. Alors c'est dans l'intention de vie que se fait cette distinction. Ce n'est pas à ce niveau-là. Ce n'est pas au niveau du premier amour. Au niveau du premier amour, il n'y a pas de distinction. J'aime, j'aime. C'est tout aimer. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils aiment. J'aime. Vous pouvez rien me demander de plus. Parce que rien n'est au-dessus de l'amour. Troisième moment, alors, le passage de l'union affective à l'union affective, les moyens. Les moyens, phase d'information, conseil, et puis choix. Élection, hein. Je choisis l'élection. La retraite d'élection. Je ne fais pas des retraites sur l'intention de vie, mais sur l'élection, le moyen. Vous voyez, toujours en vue de faire que la distance qui existe entre l'union affective et l'union affective soit résorbée, que mon amour soit de plus en plus réaliste. C'est ça qui commande tous les choix, que mon amour soit de plus en plus réaliste. Pourquoi suis-je entré à Saint-Jean ? C'est pour prouver à moi-même et en toute réalité que mon amour pour le Christ engage toute ma vie. C'est ça la vie religieuse. Alors, dire, mais non, l'amour suffit. Ah, attention, non, non, pas du tout. C'est de l'illuminisme. Vous voyez, dire, par exemple, la consécration à Dieu, je me donne entièrement. Et la vie religieuse, c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Parce que d'un côté, c'est l'union affective. Et de l'autre côté, c'est l'union affective qui commande des moyens pour une union effective. Et ça, c'est très différent. Il faut se dire ça de temps en temps quand on se dit la vie religieuse, c'est idiot. Mais parce qu'on entend ça tout le temps, n'est-ce pas ? C'est périmé, c'était bien au temps du Moyen-Âge. Et non, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, la distinction entre l'union affective et l'union effective existe toujours. C'est curieux, mais c'est comme ça. C'est exactement la même chose. L'homme n'a pas changé, et le Christ non plus. Et l'Église non plus. C'est vous qui avez changé en ne voyant plus que l'aspect subjectif. Si je ne vois que l'aspect subjectif, l'amour suffit, j'aime, je me consacre à Dieu intérieurement, c'est tout. Aime et fameuse phrase de saint Augustin, mais il faut voir la suite. On a bien coupé saint Augustin, pauvre saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux, c'est-à-dire, à partir de l'amour, tu commenceras à choisir les moyens. Pas du tout dire, mais il suffit d'aimer. Puis après, choix des moyens, aucune espèce d'importance. C'est l'amour qui commande tout. Oui, c'est très très important de comprendre la distinction entre l'union affective et l'union effective pour comprendre toute cette phase du choix. Une fois qu'on a choisi, quatrièmement, exécution. Trois phases sont intérieures. J'ai pas besoin de crier sur tous les moyens, sur tous les toits le choix. Mais à un moment donné, vous avez choisi d'entrer à Saint-Jean. À un moment donné, vous êtes obligé de dire oui, je vais entrer. Telle date d'exécution, je suis dans le temps. ce qui est très curieux, vous voyez, c'est que toute la phase intérieure, le secret que je porte, je suis seul à le porter. Quand il s'agit de l'exécution, peut intervenir l'autorité. L'autorité intervient au niveau de l'exécution. L'autorité ne peut pas intervenir au niveau du choix, de l'intention de vie et de l'amour. Ça, je le porte en moi. Mais l'imperium du supérieur, de celui qui exerce autorité sur moi, présuppose pour lui une intention, un choix de moyens, et vous communique son ordre. Et vous recevez son ordre. Alors, suivant que vous obéissez plus ou moins spirituellement, vous adhérez à son choix, vous adhérez à son intention de vie, vous adhérez à son amour. 3 degrés dans l'obéissance. Ça, c'est vrai. Vous pouvez très bien dire, oui, j'obéis, mais mon supérieur fait une grosse bêtise. Je suis bien obligé d'obéir, mais il fait une grosse bêtise. Il a mal choisi. Il s'est trompé. Alors, j'obéis du bout des lèvres. J'obéis en épousant son choix. J'obéis en acceptant l'intention de vie qu'il a. J'obéis en allant jusqu'à son amour. Pénétration plus ou moins profonde. Et c'est à partir de l'exécution qu'il peut y avoir intervention de quelqu'un d'autre, l'autorité. Puis alors, je m'applique, l'usage, je m'applique, je veux être attentif. Et c'est là où se fait